Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de « Elles ont osé », le nouveau podcast des Échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. « Elles ont osé », c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos Entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
Elles ont la couleur de l'été, de l'eau chaude et des vacances, mais elles ne sont pas les bienvenues au bord de la plage. Je parle des méduses, dont la piqûre, parfois mortelle, est souvent douloureuse. Leur prolifération n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme, mais les méduses cachent aussi des secrets qui pourraient bien devenir essentiels pour l'homme dans les années à venir. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de prendre votre scalpel pour étudier d'un peu plus près cette drôle de bestiole gélatineuse et urticante.
Ouais, tu t'es fait piquer par une méduse ?
Ouais.
Et ben ?
Ben enfin, Chris.
Je peux danser avec ta maman ?
1984 sort en France le film L'année des méduses avec Valérie Caprisky, Caroline Cellier et Bernard Giraudot. Je vous passe le scénario, une histoire de séduction et de jalousie pendant les vacances à Saint-Tropez où les méduses jouent un rôle assez discret, moins en tout cas que la chanson-titre signée par une certaine Nina Hagen. Je passerai aussi sur un célèbre épisode de Friends où il est question également d'une piqûre de méduses et de la façon dont il faut en atténuer les effets.
You gotta do something.
Well, there's really only one thing you can do.
What? What is it?
You're gonna have to pee on it.
Spoiler alerte, selon les pharmaciens, ça sert pas à grand-chose. La méduse, au-delà de son image pétrifiante, période antiquité grecque, n'existerait-elle donc que pour hanter nos baignades et nos nuits après avoir vu cet épisode de National Geographic Wild?
La méduse boîte, ou cubozoaire, dispose de 60 tentacules pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Un seul d'entre eux peut injecter assez de venin pour tuer un humain en quelques minutes.
Je vous rassure, la cubozoa ne navigue pas sous nos horizons et les espèces que l'on trouve en Méditerranée ou dans l'Atlantique sont beaucoup moins dangereuses. Je sens en tout cas que vous avez besoin de déstresser un peu.
J'ai les bras gélatineux, j'ai un loup vraiment dégueu. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Méduse, mon cœur est...
Car la méduse cache de nombreux secrets que Stefano Lupieri, journaliste aux Échos Week-end, a tenté de percer. Bonjour Stefano.
Bonjour.
Alors d'abord, pourquoi est-ce que la méduse a mauvaise réputation depuis l'Antiquité ?
Eh bien sans doute parce que c'est une bestiole urticante dont les piqûres peuvent faire très mal. Toutes les méduses piquent, mais en fait l'homme ne ressent la piqûre que de certaines d'entre elles. En revanche, les cuboméduses qui se trouvent en Australie peuvent avoir des piqûres qui, pour le coup, sont mortelles. On ne le sait pas, mais les méduses font plus de morts chaque année que les requins. On en compte environ une cinquantaine de décès par an dus à des piqûres de méduses, ce qui est quand même considérable. Lorsque les méduses piquent, c'est un mécanisme qui est assez sophistiqué malgré tout. C'est un harpon qui contient une capsule avec du venin qui est lancé à la vitesse d'une balle sortant d'un revolver. En fait, c'est l'un des mécanismes les plus rapides dans la nature que l'on connaisse. C'est donc pas pour rien qu'on a nommé les méduses. C'est un naturaliste du 19e siècle qui l'a fait, en référence à la Gorgone, ce personnage mythologique qui pétrifiait les hommes de son regard.
C'est un animal qui a une capacité de résilience incroyable.
Oui, en fait, c'est un organisme marin qui est assez primaire, assez simple. La méduse n'a pas de système nerveux central, donc elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de poumons. Tous ses organes ont habituellement besoin d'énergie. Or, dans le cas de la méduse, c'est pas la peine. En fait, une méduse, c'est une sorte de ventre flottant dont la principale fonction est de manger et de se reproduire, comme beaucoup d'animaux dans la nature, tu me diras. En plus, la méduse a une formidable capacité à se régénérer, un peu comme un lézard. Hein. Si on arrache le ventre d'une méduse, il cicatrise très vite, et au bout de 4 jours, il est reconstitué. Qui plus est, une méduse peut vivre très longtemps sans manger. Elle a la capacité de se rétracter en absorbant ses organes de reproduction. Et dès qu'elle a la capacité, la possibilité de se nourrir à nouveau, tout ça se reconstitue. Donc, c'est des mécanismes qui sont véritablement étonnants.
Ce que vous écriviez dans les Éco-Weekends, c'est qu'elles peuplent nos océans depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc beaucoup plus âgées que les dinosaures et ont survécu à toutes les extinction d'espèces, et on en trouve aujourd'hui dans tous les océans ?
Absolument. En fait, on a constaté qu'elles sont présentes dans toutes les mers du monde, dans tous les océans, du nord au sud, et en plus à toutes les profondeurs. Une des grandes forces, c'est leur capacité à s'adapter à des températures d'eau qui sont très différentes. Juste un exemple, la Pelagia noctiluca, qui est une méduse qu'on trouve souvent en Méditerranée, qui est très urticante. Pendant la journée, elle descend au fond des mers pour éviter les prédateurs, et durant la nuit, elle remonte en surface pour elle-même se nourrir. Donc, elle a effectivement cette capacité à vivre à des températures très différentes et donc une capacité d'adaptation très grande.
On a une crainte, en fait, que les océans deviennent de plus en plus gélatineux, c'est-à-dire qu'on remplace progressivement les poissons par des méduses.
C'est vrai ce qu'on entend dans ce documentaire. Il existe vraiment un risque que les méduses colonisent complètement les océans. Il faut craindre l'invasion, pour reprendre le titre de votre article.
Eh bien, c'est un sujet un peu controversé chez les chercheurs. La prolifération des méduses est incontestable à certains endroits du globe, en mer de Chine par exemple, ou au Japon, ou encore au large de la Namibie. C'est ce qui fait dire à certains de ces chercheurs qu'on assiste à une gélification des océans. D'autres chercheurs sont plus prudents et ils considèrent que, faute de relevés suffisants, on ne peut pas complètement l'affirmer. D'autant que, on assiste parfois à des situations contradictoires. Par exemple, en mer Baltique, il y a quelques années, les méduses ont beaucoup proliféré et récemment, on en verrait moins. Donc, on a encore plein d'incertitudes sur la question. Mais ce qui est clair, c'est que dans certaines mers, on en trouve de plus en plus. Alors, en revanche, on a une certitude, c'est effectivement la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, puisque tout le monde est d'accord pour dire que le principal facteur de prolifération de la méduse, c'est la surpêche. En pêchant, on élimine les prédateurs des méduses, et en même temps, on laisse davantage de plancton à disposition des méduses pour se nourrir. C'est un cercle vicieux. La disparition des poissons favorise la prolifération des méduses, qui, en se nourrissant d'alevins, accentue le phénomène de disparition des poissons. Là où il y a beaucoup de méduses, il n'y a plus de poissons, ça on le sait. En Namibie, par exemple, qui n'a pas du tout régulé sa pêche, les pêcheurs, dans leur chalut, ne remontent pratiquement plus que des méduses, alors que le pays voisin, l'Afrique du Sud, a été beaucoup plus sérieux et a régulé cette pêche, et la situation est beaucoup moins catastrophique pour ces pêcheurs.
Pour les vacanciers, une année où il y a beaucoup de méduses, c'est plutôt une mauvaise année, on a un peu peur de se baigner, mais plus globalement, cette prolifération a aussi des impacts économiques visibles.
Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut dire que la présence des méduses sur les plages est due au courant et au vent. Sur certaines plages de la Méditerranée, les chercheurs ont constaté que là où, il y a quelques décennies, on constatait la présence des méduses une fois tous les 12 ans, désormais, c'est pratiquement tous les ans. Alors évidemment, ça a des nuisances pour le tourisme. On n'aime pas trop aller se baigner quand on voit des méduses au bord de l'eau. C'est pour ça qu'en France, on avait tenté, il y a une dizaine d'années, de lancer ce qu'on avait appelé une météo des méduses. C'était une tentative de prévoir à l'avance l'arrivée des méduses sur les plages, de pouvoir dire sur telle ou telle plage, attention, il y a des méduses. ça n'a pas vraiment marché. Alors, d'aucuns disent c'est parce que c'était pas assez précis et que parfois on annonçait la présence des méduses sur des plages, les touristes s'en allaient et le lendemain on constatait qu'il y avait rien. D'autres disent que c'était trop précis, qu'il aurait fallu faire des prévisions un peu plus générales. Le fait est, c'est que les municipalités se sont vite retirées du mécanisme, du dispositif et c'est un peu tombé à l'eau. De même, pour lutter contre ces nuisances, certaines plages installent des filets pour sécuriser la baignade. Mais il semblerait que si elles sont projetées contre la houle, les méduses lâchent tout de même leur harpon urticant et elles peuvent piquer, ces harpons peuvent piquer même à l'intérieur du périmètre. Une autre nuisance, pour le coup liée plutôt à l'industrie, c'est celle que peuvent subir les élevages d'aquaculture, puisque les méduses peuvent s'attaquer à des cages en mer. On sait que certains élevages ont été décimés, notamment des élevages de saumon en Norvège. Alors, il est vrai que il y a de plus en plus d'élevages d'aquaculture un peu partout dans les mers et que si on place une cage dans le flux d'un courant, ben on s'expose effectivement au risque d'être attaqué par des méduses.
Un risque, mais c'est peut-être aussi une opportunité. On va voir ça tout à l'heure. Mais Stefano, les méduses sont des objets fascinants pour les chercheurs ?
Ben oui, en fait, il y en a de plus en plus qui s'intéressent aux méduses, même si ça reste quand même une petite communauté, les chercheurs spécialisés dans ce domaine. L'année dernière, il y a eu un congrès mondial en Afrique du Sud, où à peu près tous les chercheurs qui travaillaient sur le sujet se sont réunis, et on comptait un peu plus d'une centaine de personnes, quoi, à l'échelle mondiale. Autant dire qu'il reste encore beaucoup à apprendre et à étudier, à découvrir sur ces organismes qui appartiennent à la grande famille du plancton gélatineux. En fait, il y a, on se l'imagine pas, près de 3500 espèces de méduses. Alors, c'est vrai que celles que nous, on connaît, les méduses d'une certaine taille, qu'on voit au bord des plages, elles appartiennent à la famille des Scyphozoaires, et il y en a environ 200 espèces. Après, il y a une quarantaine d'espèces qui appartiennent à la famille que je citais tout à l'heure des cuboméduses, qui sont donc ces méduses dont la piqûre peut être mortelle et qu'on trouve essentiellement en Australie. Et la grande majorité, tout le reste, ce sont des hydroméduses qui sont très petite taille. Elles sont presque pas visibles à l'œil nu. Elles peuvent faire au maximum quelques millimètres. Donc, on les voit pas. Mais en revanche, elles peuvent potentiellement être urticantes.
On a un laboratoire océanographique parce que, au début, on a constaté plusieurs choses. D'abord, une mer très profonde en face de Villefranche. Il suffit de faire une longueur de Cap Ferrat au large et nous avons plus de 1000 mètres. Donc, un petit océan à étudier. Dans cet océan, il y a évidemment une faune et une flore intéressantes de pleine eau, le plancton.
Vous avez visité l'Institut de la mer de Villefranche. Ça ressemble à quoi ?
Alors, c'est une des plus anciennes stations marines de France. Ça a été inauguré à la fin du 19e, en 1882. Alors, le bâtiment d'origine, c'est un bâtiment en pierre qui a été construit au bord de la Darse, qui date du 18e siècle et qui était une ancienne prison des galériens des ducs de Savoie. C'était là qu'on parquait les galériens avant de les mettre sur les bateaux. On voit d'ailleurs encore au sol les traces des anneaux dans lesquels ils étaient enchaînés. Alors depuis, évidemment, l'Institut de la mer s'est un peu élargi. Il y a d'autres bâtiments qui se sont construits autour. Aujourd'hui, il abrite deux laboratoires qui sont sous tutelle de la Sorbonne Université du CNRS, un laboratoire de biologie cellulaire des organismes marins et un laboratoire d'océanologie pélagique. Alors les méduses sont un des domaines de compétence de cette station marine qui s'intéresse d'une manière générale au plancton gélatineux. Et donc, ils ont appris à élever les méduses en captivité depuis une quinzaine d'années. Enfin, quand je dis les méduses, ils travaillent sur deux espèces de méduses qui sont la Clitia, qui est une petite hydroméduse, et la Pelagia noctiluca. Mais ils sont très pointus sur le sujet puisque c'est le premier laboratoire à avoir décrypté le génome d'une méduse, en l'occurrence la Clitia. Et depuis, d'autres laboratoires ont fait de même sur d'autres espèces de méduses.
J'ai découvert quelque chose en lisant aussi votre article, c'est le processus de naissance d'une méduse. En fait, la méduse mène une double vie assez fascinante.
Oui, c'est assez incroyable parce que la méduse a un stade de vie mobile sous forme de l'animal que tout le monde connaît. Hein. Et il y a aussi une autre forme, un autre stade de vie qui, lui, est fixe sous forme d'un polype. En fait, le processus de naissance d'une méduse est assez particulier. Dans la majorité des cas, après, il peut y avoir des exceptions, hein, bien sûr, mais les méduses lâchent leurs gamètes dans l'eau, gamètes mâles, gamètes femelles, qui se réunissent et donc forment un œuf qu'on appelle une planule. Mais cet œuf-là ne va pas donner naissance à une méduse. Il va tomber au fond de l'eau et donner naissance à un polype qui donc, lui, va pousser. Et à un certain moment, en général, c'est lorsqu'il subit un stress de température de l'eau, au changement de saison, il va se mettre à bourgeonner, le polype, et donc donner naissance, pour le coup, à des petites méduses. Et donc, il y a bien ces deux formes de vie. Pour les hydroméduses, d'ailleurs, le polype est capable de former des rhizomes et se développer tout seul, indépendamment de la méduse que l'on connaît. À l'inverse, effectivement, de ces méduses qui vivent en moyenne un an, enfin plus ou moins selon les espèces, le polype, lui, s'il a à manger, il peut vivre, je dirais pas indéfiniment, mais beaucoup plus longtemps. Ce qui explique pourquoi les méduses colonisent un peu nos océans, puisque effectivement, une fois qu'il est installé, le polype, il reproduit des méduses presque indéfiniment, quoi.
La Turritopsis a été découverte en 1988. Ce n'est qu'en 1996 que les scientifiques ont mesuré son incroyable potentiel. Cette méduse détient les clés de l'immortalité.
La méduse fait aussi fantasmer par sa capacité, on le disait, à survivre, à s'adapter. Mais Stefano, certaines espèces seraient même immortelles ?
Oui, c'est un phénomène qui a été mis en évidence chez une petite méduse qu'on appelle la Turritopsis nutriluca. Il semblerait que dans certaines conditions favorables, lorsqu'elle est arrivée en fin de vie, cette méduse a la capacité de se résorber en une goutte de gélatine qui tombe au fond de l'eau et qui donne naissance à un polype, un peu comme si un papillon revenait au stade de la chenille. C'est une forme de régression cellulaire assez unique dans la nature, un retour à ce qu'on appelle une forme indifférenciée de la cellule, qui fait évidemment beaucoup fantasmer. Alors, une équipe de chercheurs italiens a mis en évidence récemment les gènes qui étaient impliqués dans cette régression. Il reste évidemment à découvrir le rôle joué par chacun, et il y en a des centaines, voire des milliers, avant de pouvoir imaginer des applications qui pourraient être évidemment nombreuses.
Lorsqu'on visite un aquarium comme celui de Paris, est difficile de passer à côté des méduses qui font parfois l'objet d'une mise en scène pour faire ressortir leur côté luminescent. Ça fait partie aussi des objets d'étude ?
Oui, bien sûr. Alors, un mot déjà sur le médusarium de l'aquarium de Paris. Il a été inauguré il y a 2 ans. On peut y voir 52 espèces qui sont en majorité élevées en captivité, ce qui est quand même une performance. Alors, on peut voir des méduses. Les noms vernaculaires des méduses sont assez intéressants. Il y a la méduse œuf au plat, il y a la méduse boulet de canon, il y a la méduse poumon de mer. Alors, toutes les visites se font dans l'obscurité pour mieux apprécier effectivement le spectacle de leurs mouvements et notamment de la luminescence produite par certaines de ces méduses. Il faut savoir que cette caractéristique a donné lieu à un prix Nobel en 2008. 3 chercheurs, un japonais et 2 américains, ont isolé la protéine qu'ils ont baptisée GFP pour Green Fluorescent Protein, responsable de ce phénomène de fluorescence. Alors, ils ont travaillé à partir d'une espèce de méduse qui s'appelle l'Aquarea Victoria. Alors, depuis, on a pu synthétiser cette protéine et elle fait aujourd'hui partie de la trousse à outils des biologistes qui l'utilisent comme un marqueur pour suivre notamment l'évolution des cellules cancéreuses. Alors, ça se fait pas encore chez l'homme, mais chez la souris, et c'est quand même très utile pour eux.
Il y a quelques années, face à cette invasion, certains ont essayé d'imaginer des solutions pour s'en débarrasser. Alors, ça a été heureusement assez vite oublié, car les méduses ont un rôle important à jouer dans l'écosystème.
Oui, on avait imaginé un système, il y a quelques années, de robot tueur. C'était un espèce de petit robot avec une hélice qu'on lâchait au milieu d'un essaim de méduses pour les tuer. Alors, pour les chercheurs, c'était une aberration parce que l'hélice qui était censée les réduire en bouillie favorisait aussi la dispersion des gamètes et donc aussi la reproduction des méduses. En fait, il y a eu un changement d'attitude assez radical depuis quelques années à l'égard des méduses. Les chercheurs essayent de redorer un peu leur blason et on essaye de mettre en avant le rôle qu'elles jouent dans les écosystèmes. Il faut savoir que les méduses sont quand même mangées par plus de 150 espèces d'animaux marins et d'oiseaux. Et donc, le changement d'attitude fait qu'on commence à les regarder véritablement comme des ressources. Et ça, c'est très intéressant.
Mais justement, vous parliez d'animaux qui mangent, et de poissons, d'oiseaux qui mangent les méduses. Nous aussi, on peut les manger ?
Oui. Alors, une méduse est composée à 95% environ d'eau, mais elle est aussi très riche en nutriments. Je peux vous préciser les choses. Sur 100 grammes de méduse, on trouve 12 grammes de protéines, 4 grammes de glucides, 1/10 de gramme de lipides, 182 mg de calcium, il y a du fer, de la vitamine B1, B2, et en tout, il y a 82 calories par 100 grammes de méduse. Donc, c'est assez intéressant nutritionnellement. Alors, en Asie, la méduse est un plat courant, hein. Selon les chiffres de la FAO, on sait que plus d'un million de tonnes de méduses sont pêchées ou élevées pour l'alimentation en Asie. Alors, toutes les espèces de méduses ne sont pas comestibles. Mais bon, pour arriver à développer la consommation en Occident, il va falloir surmonter probablement un problème culturel, quoi. Parce que c'est vrai que quand on voit ces masses gélatineuses, peu ragoûtantes, échouées sur les bords de plage, ça fait pas très envie. Voilà. Alors après, on peut faire le parallèle avec les insectes, hein. On sait qu'en Asie, on mange des insectes depuis très longtemps et chez nous, on essaye de les introduire, mais c'est pas gagné encore.
Ça peut quand même être une solution à la malnutrition dans certains territoires de la planète. La FAO disait justement, si vous n'arrivez pas à les combattre, mangez-les.
Oui, on peut l'imaginer. Mais bien au-delà de la malnutrition, il y a quand même certains chercheurs qui disent que compte tenu de la raréfaction de la ressource halieutique dans nos mers, due à la surpêche, mais aussi à l'acidification des océans, qui fera que bientôt les poissons vont mourir, bientôt peut-être qu'on n'aura plus le choix, même dans les pays occidentaux, de manger des méduses. Donc, autant s'y préparer. Alors, le fait est, c'est qu'en Europe, il y a un problème réglementaire. Aujourd'hui, la méduse en Europe est considérée comme un nouvel aliment. Et avant de pouvoir la récolter ou l'élever pour la consommation, il faut monter un dossier d'autorisation. Il faut qu'un entrepreneur s'en empare et dépose un dossier à Bruxelles pour démontrer que voilà, il y a aucun problème à manger certaines espèces de méduses. Alors ça a un coût, mais bon, il y a sans doute certains entrepreneurs qui réfléchissent à la question. Alors la méthode de conservation qui est utilisée en Asie, c'est une méthode qui passe par une désification de la méduse à base de sel d'Alain, mais cette méthode n'est pas autorisée en Europe. Et donc, un centre de recherche italien à Lecce vient de mettre au point une méthode basée sur la stérilisation. Ils ont réussi à prouver qu'en stérilisant, il n'y avait pas de perte de nutriments. Et cette étude a été réalisée dans le cadre d'un programme international qui est financé par Bruxelles, qui est baptisé Go Jelly et qui regroupe une quinzaine de partenaires, universités, instituts de recherche, entreprises, et qui vise précisément à trouver des nouveaux débouchés pour la méduse, toujours dans cette optique de considérer la méduse comme une ressource. Donc, on peut imaginer que dans un avenir prochain, il y aura des entreprises qui vendront des méduses, je ne sais pas comment, sous quelle forme de conditionnement, mais ça arrivera sur le marché.
Alors Stéphano, vous êtes un homme plein de ressources, je le sais. Je suis sûr que vous avez déjà une idée de recette.
Écoutez, moi, je n'ai pas poussé l'investigation jusqu'à aller à cuisiner des méduses, mais ceux qui l'ont fait disent que la méduse a en fait le goût de la sauce avec laquelle on la mélange. En fait, on peut faire des steaks de méduse, on peut faire des méduses en tempura. Il semblerait qu'elles aient une consistance assez croquante. On peut même faire des bonbons de méduse et on a même essayé de faire des chips de méduse. La chercheuse italienne dont je parlais tout à l'heure, qui travaille sur le nouveau process de stérilisation des méduses, est en train de préparer avec un chef italien, un grand chef italien qui s'appelle Fabiano Viva, un livre de recettes qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, alors évidemment en Italie. Voilà de quoi travailler un peu sur l'acceptation culturelle de la méduse comme source d'alimentation, mais je pense que il faudra quand même d'autres efforts pour arriver à faire en sorte qu'elle se développe comme source d'alimentation, bien sûr.
Cuisiner la méduse, je vois bien Adrien Cachot, finaliste de Top Chef 2020, se lancer dans le défi.
Mon dessert, ça va être ça. Ça, c'est mon dessert.
Alors, c'est quoi ça? Un gobelet écrasé?
D'accord.
On va pas leur faire manger du plastique, quand même.
Quand j'étais petit sur la plage en Bretagne, je récupérais avec un avenot des méduses violettes et je les faisais sécher sur un rocher. Ça faisait comme des galettes colorées. C'était joli, mais pas très utile. Si j'ai bien compris, j'aurais mieux fait de les ramener à mon grand-père pour qu'il les mette sur des plants de patates pour qu'ils poussent ?
Oui, tout à fait. Déjà, dans l'Antiquité, les Phéniciens, semble-t-il, utilisaient les méduses pour les mettre au pied des vignes et assurer une sorte de goutte-à-goutte à la plante. Bon, le problème, c'est que malgré tout, la méduse, c'est un animal marin, donc l'eau, c'est de l'eau salée, donc ça augmente le pH de la terre, donc il faut essayer d'enlever le sel. Alors là encore, dans le cadre du programme Gogelli que je citais tout à l'heure, il y a une autre université allemande, cette fois à Kiel, qui est en train de travailler avec un partenaire privé pour tester des méthodes de désalinisation des méduses. Ils testent une méthode chimique et une méthode thermique. Et dans la foulée, ils vont aussi tester l'impact des méduses en termes d'engrais, de fertilisants, notamment sur les cultures d'épinards. Mais bon, on sait de toute façon que les méduses ont un bon impact sur la fertilisation des sols. Alors, c'est pas la seule application que l'on peut imaginer pour les méduses. Une autre application intéressante qui est en train d'être étudiée, on a découvert que le mucus des méduses était un excellent piège à microparticules de plastique. Et donc là aussi, il y a des recherches, notamment à l'université israélienne de Haïfa, pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait pas les introduire des filtres dans les stations d'épuration pour éviter que justement ces microplastiques naillent dans les eaux et polluent les eaux des fleuves et des mers. Encore une autre application qui est encore plus avancée, c'est l'utilisation du collagène. Alors, il semblerait que le collagène de méduse est d'excellente qualité, qu'il a une bonne tolérance chez l'être humain. On fait déjà quelques crèmes de beauté au collagène de méduse, mais il y a aussi d'autres applications, notamment une start-up franco-britannique qui s'appelle Gelagen, qui essaye de développer le collagène pour la culture cellulaire, mais aussi pour la réparation cellulaire, pour faire des espèces de pansements pour le foie ou pour les cordes vocales. On le voit, les méduses pourraient devenir les prochaines stars des biotech marines.
On le disait, la prolifération des méduses a un impact économique non négligeable. Mais on comprend aussi, en écoutant Stefano, que ces animaux sont pleins de ressources et peuvent être créateurs de valeur pour start-up. Un dernier mot, Stefano. Vous avez installé un aquarium à méduses chez vous ?
Non, je ne suis pas assez patient et soigneux, mais c'est tout à fait possible et ça devient même trendy. Bon, il faut évidemment un équipement spécial, un aquarium qui a une forme arrondie, avec un système de courant en continu pour éviter que les méduses tombent au fond de l'aquarium et qu'elles ne meurent. Il faut évidemment aussi pouvoir acheter des méduses dans le commerce. Or, il se trouve qu'une société française s'est spécialisée sur le sujet. Elle s'appelle Jellyfish Concept et elle est installée à la criée de Cherbourg. Elle propose une trentaine d'espèces qui coûtent entre 30 et 130 euros pièce. Donc, voilà, pour un petit aquarium avec 4-5 méduses, il faut compter entre 700 et 800 euros, ce qui reste quand même assez cher. Enfin, c'est pas donné. Il n'empêche que Jellyfish vend dans le monde entier, puisque aujourd'hui, il n'y a que très peu de sociétés de ce type. Elles se comptent sur les doigts d'une main à l'échelle internationale. Il y en a très peu qui sont capables d'élever des méduses en captivité. Et le marché se développe surtout via les clients entreprises. Il semblerait que de plus en plus d'hôtels, de restaurants, de sièges sociaux veuillent installer chez eux un aquarium à méduses. Jellyfish a même eu pour client un dentiste qui a installé un aquarium dans sa salle d'attente, sans doute pour tranquilliser ses patients grâce au spectacle. Il est vrai, tout à fait hypnotique de leur balai dans l'eau.
Merci Stefano Lupieri, journaliste aux Echos Weekend, pour cette superbe plongée au milieu des méduses. Je l'ai senti piqué par le sujet. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Jelligan, chargé de production, d'édition et du brossage de tentacules, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Vous avez aimé cet épisode de La Story ? Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des Échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des Échos-entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.